Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la deuxième partie de l'épisode sur les systèmes SCADA. Pour rappel, dans la première partie, nous avons évoqué les risques liés à ces environnements. Et dans ce deuxième épisode, nous allons nous pencher sur la limitation des risques. Donc pour traiter de ce sujet, nous avons la chance d'avoir des personnes qui maîtrisent très très bien donc le sujet des environnements SCADA, à savoir Arnaud Soulier qui donne des formations sur la sécurité des environnements SCADA.
Bonjour.
Guillaume Prigent, qui est le responsable technique d'une entreprise qui propose une plateforme de simulation des environnements SCADA.
Bonjour.
Christophe Renard qui donne également des formations sur les systèmes SCADA.
Bonjour.
Et donc les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Leblond.
Bonsoir.
Hervé Schauer.
Bonjour à tous.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Donc dans le premier épisode, nous avons vu en fait que les systèmes SCADA souffraient on va pas dire de défaillance, enfin en tout cas avait un niveau de sécurité relativement faible. Et aujourd'hui, donc, nous allons tenter d'explorer des pistes pour déterminer comment améliorer la sécurité de ces environnements. Alors, qui va commencer ? Arnaud peut-être ?
Oui, avec plaisir. Je pense qu'un premier élément qui paraît un peu bête, mais c'est vraiment un des prérequis pour pouvoir sécuriser ces SI industriels, c'est de les connaître et du coup d'avoir un inventaire. En fait, moi j'ai pu être confronté à de nombreux clients lors d'audits qui n'avaient pas un inventaire complet, qui n'étaient pas capables de lister tous les automates qu'ils avaient, encore moins les versions de firmware, les différents patchs qui avaient été appliqués. Et du coup, naviguer dans la brume comme ça, c'est pas du tout facile. Donc moi, je pense que la première action, si on veut sécuriser son SI industriel, c'est d'être capable d'avoir un schéma réseau complet et la liste de ses automates.
Oui, et même, on pourrait rajouter connaître la topologie de ces réseaux, parce que souvent c'est quelque chose qui a évolué de façon ad hoc et qui est très très mal maîtrisé dans beaucoup de cadres industriels.
Et si je me rappelle une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, on n'a pas intérêt à faire la découverte active, parce que sinon on fait rebooter tout. Mais ce qui est vrai, il faut plutôt faire la découverte passive, je pense, sur ce genre de réseau, si on n'est pas capable de faire un plan soi-même.
Dans un réseau industriel, tu peux aussi faire de la découverte physique.
C'est pas évident pour les sites qui sont très éloignés géographiquement ou qui sont distribués sur l'ensemble d'un pays. C'est pas forcément trivial non plus.
Mais il y a même des sites qui sont tout simplement très étendus, avec des systèmes industriels qui sont denses par endroits, mais pas du tout sur d'autres, où il y a quelques capteurs, quelques cuves, mais pas grand-chose d'autre. C'est pas évident de faire l'inventaire. C'est pas évident surtout sur des sites un peu anciens. Si le site est tout neuf, c'est relativement bien fait. Si le site est ancien et qu'il y a eu des simulations de couche sur couche, c'est assez difficile. Mais après avoir fait l'inventaire, je pense qu'il faut commencer aussi à regarder quels sont les flux. Et là, il y a souvent des choses assez étonnantes qui s'accumulent. Et il y a un gros travail souvent, qui est un travail finalement de base, mais qui est de segmentation des flux et de segmentation des différentes zones réseau. En particulier parce que les PLC dont on a parlé dans la première émission, eh bien, sont des équipements extrêmement fragiles. Je ne sais plus qui parlait de faire de la découverte active et du fait que ce ne soit pas recommandé. C'est essentiellement lié à la fragilité des piles réseau de certains PLC. Et donc, ce sont les équipements dont on voudrait surtout éviter qu'ils soient au contact avec un réseau hostile. Donc, généralement, c'est eux qu'on va essayer de protéger, en premier lieu.
Tout à fait. Et si on veut les cloisonner d'un réseau hostile, la première démarche, c'est de s'assurer qu'ils ne sont pas disponibles directement sur Internet. Ce qui peut paraître fou, mais qui est le cas d'un certain nombre de SI industriels. Je pense qu'on n'a pas encore mentionné l'outil Shodan, qui a fait beaucoup parler de lui les dernières années. On trouve encore aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens ou au niveau du monde, de nombreux systèmes industriels directement exposés sur Internet. En France, on trouve notamment des petites centrales hydrauliques.
Il n'y a pas que Shodan, hein, parce qu'il y a plein de concurrents. Il y a un projet qui a été présenté à STIC qui s'appelle Ivre, qui fait aussi un peu la même chose. Et effectivement, il y a des trucs assez rigolos, quoi.
Donc, vous pouvez rappeler ce que ça fait Shodan et Ivre ?
Globalement, ça scanne Internet sur les ports intéressants. Et quand ça trouve un système qui... Alors, premièrement, ça enregistre, ça indexe les en-têtes. Ce qui n'est pas le cas d'un moteur de recherche web traditionnel qui indexe le contenu. Mais dans les entêtes, tu récupères des trucs, enfin en HTTP, tu récupères le user agent, en SSH, tu récupères une bannière avec la version du système, etc. Et ensuite, sur Ivre, il va un peu plus loin, parce que quand il détecte que c'est des trucs connus, par exemple du VNC, il va essayer de faire un screenshot, enfin s'il n'y a pas de mot de passe. Donc du coup, sur du RDP, pareil, il va faire un screenshot, donc tu peux voir directement quel type de système est connecté derrière. Mais bon, après, il y a des projets aussi, Metasploit, enfin Rapid7, Alcien, etc. Aujourd'hui, si t'as pas scanné Internet, t'as raté ta vie.
Donc on a vu qu'il fallait essayer d'inventorier, qu'il fallait essayer d'isoler ces systèmes d'Internet. Quoi d'autre ?
Il y a une autre voie d'entrée qui est très dangereuse, c'est le fait que beaucoup d'installations industrielles ont énormément d'intervenants extérieurs. Alors ça peut être des gens qui se connectent par des VPN pour faire de la maintenance sur les applications, sur les équipements. Ça peut être des gens qui font de la télémétrie en permanence parce que certains gros équipements sont pas achetés, mais ils sont loués. Et du coup, ils sont avec des contrats où il y a des stations de supervision à l'extérieur qui sont en permanence en train de regarder, qui accèdent quand ils veulent et qui sont raccordés sur le réseau global de l'installation. Et puis, il y a ce dont parlait Arnaud tout à l'heure, c'est les gens qui échangent des PC. Il y en a une catégorie qui est particulièrement exposée, ce sont les gens qui font de la maintenance, qui sont sur la route, qui ont un ordinateur portable, qui passent d'installation en installation. Eux n'ont jamais de mise à jour de rien. Ni antivirus, ni patch système, parce que les patchs, c'est encore un sujet abordé. Et ils ont un PC Windows qui va servir à faire de la bureautique, à surfer sur du porn le soir dans leur hôtel, et dans la journée, à se connecter sur l'installation industrielle. Donc là aussi...
Il y a des cas avérés de systèmes industriels qui ont été contaminés par ces gens-là, hein, et qui sont tombés en panne à cause de ces gens-là.
Alors comment on réduit les risques, justement, dans ce contexte-là ?
Je pense qu'il y a un aspect contractuel au tout départ, qui est évidemment impossible à faire sur le passé, mais qu'il convient de faire sur le futur. Aujourd'hui, contractuellement, tous ces intervenants à droite et à gauche n'ont pas pris les engagements appropriés en matière de sécurité. Et donc, la première chose à faire, c'est à intégrer la sécurité dans la contractualisation avec tous les intervenants, les télémainteneurs, etc. Et ensuite, une fois qu'on a contractualisé les obligations de sécurité, eh bien, on doit se donner les moyens de contrôler que ces obligations sont réellement faites. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent intervenir sur le réseau, mais qui refusent que l'on vérifie leur poste de travail avant qu'ils le connectent. Bon, ben, il faut pouvoir contrôler que l'antivirus est à jour, que les correctifs de sécurité ont été appliqués, que l'OS est à jour.
Enfin, ça, c'est un peu comme les histoires de cloud, non ? Quand t'as plus que quand t'es sur un marché où il n'y a qu'un seul fournisseur qui est quasiment en situation de monopole, tu peux difficilement lui imposer quoi que ce soit dans les contrats. Bah, je pense à certains machines très précises où il y a peut-être un ou deux vendeurs dans le monde. Bon.
Mais en fait, t'es en train de dire qu'il faut regarder le porn après l'intervention ?
Avant.
En fait, moi, ce que je voulais dire sur la typologie, pour bien m'expliquer que c'est un peu différent que dans l'IT où tout est interconnecté et puis le client devient serveur, le serveur est client et ainsi de suite. La chose qu'il faut protéger à tout prix, en dernier maillon, on va dire, c'est l'automate. C'est l'automate, il est autonome. Il a ses capteurs, ses actionneurs, il exécute son programme d'asservissement et de contrôle. Et la manière dont on communique avec le PLC, hormis dans des situations particulières qui vont être de le reprogrammer, d'agir dessus de manière manuelle parce qu'il y a des choses à faire, il ne fait que du reporting. Donc il est normalement, d'un point de vue logique, accessible en lecture seule. Et à ce moment-là... Ben, on pourrait rentrer dans le débat des diodes filtrantes, des filtrages de flux, des choses comme ça, et aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui, dans les environnements industriels, un poste qui fait la supervision, même si tout le monde dit oui, on a limité les droits, l'application peut pas faire ci, peut pas faire ça, on fait attention, tout ça, c'est pas vrai. Quand on est route, pour quelque raison que ce soit, parce qu'il y a une vulnérabilité dans la schéma, dans l'IHM, parce que c'est un Windows, parce que si, on peut envoyer les commandes qu'on veut qui seront filtrées sur l'automate, et ça c'est pas tolérable.
Alors justement, quelle solution de sécurité on peut faire pour que on puisse très facilement passer tous les automates en uniquement reporting et ne pouvant pas recevoir de commandes. Sachant que c'est vrai que souvent les automates sont très bien protégés physiquement, et donc à la moindre alerte, on devrait pouvoir faire en sorte que les automates passent en lecture seulement et ne puissent plus recevoir le moindre ordre.
En fait, moi, je ne partage pas cette vision sur le fait qu'il soit en lecture seule. Si on dit lecture seule vis-à-vis d'une reprogrammation, oui. En revanche, c'est bien le rôle de l'application de supervision d'envoyer des ordres aux automates que eux vont transcrire, de leur donner par exemple des consignes. Donc, on ne peut pas si simplement les passer en lecture seule. En revanche, si on veut se protéger d'une reprogrammation, je pense qu'un des sujets qu'on n'a pas encore abordé, c'est la supervision sécurité. Peut-être d'avoir des sondes qui vont pouvoir lever une alerte, voire bloquer des paquets qui seraient des paquets de reprogrammation, alors qu'il n'y a aucune maintenance qui n'est prévue.
Il y a énormément d'automates qui ont un procédé, et le procédé normal n'a, en fonctionnement habituel, pas besoin d'être changé.
J'ai très rarement vu des postes, sauf dans des métiers particuliers, l'eau par exemple, où on vient, l'opérateur en manuel vient parce que ça lui plaît ou parce qu'il a une consigne, il se dit tiens, il faudrait augmenter la vitesse dans son IHM, piloter l'automate. Hein. C'est extrêmement rare.
Non, il y a tout ce qui inclut des vannes, tout ce qui est des gestions de stockage, tout ce qui inclut des gestions de pipeline, tout ce qui est opération en fait de réservoir. Tous ces trucs-là, il y a des opérations de je change l'état de l'automate. Alors évidemment, le programme est le même, je ne change pas sa programmation, mais parler à l'automate pour lui dire maintenant tu passes dans un autre état, il y a pas mal d'industries sur lesquelles c'est des choses qui se font fréquemment. Mais et pour revenir sur le point d'avant, dire oui, on devrait être en unidirectionnel, évidemment, et c'est une des mesures du guide de l'ANSI, c'est mettez des diodes partout. Il y a beaucoup de problèmes liés à la mise en œuvre pratique des diodes. Ça pourrait faire l'objet d'une émission à lui tout seul. Grosso modo, c'est pas simple à faire dans la réalité. Et en tout cas, c'est pas aussi trivial que de mettre un équipement au milieu et dire hop, maintenant c'est réglé. Ça ne marche pas, ne serait-ce que parce que la plupart des protocoles réseau sont bidirectionnels. Mais en plus, il faudrait déjà que les gens arrêtent de connecter n'importe quoi sur le réseau sur lequel il y a les PLC. Donc la première mesure, c'est que les accès distants doivent passer par une médiation, que ce soit un bastion ou un système de relais ou de contrôle des accès, pour s'assurer que tout ne soit pas connecté. Moi, j'ai vu sur une installation de quelque chose qui pouvait faire boom, avoir un PC qui était le contrôleur du domaine contrôlant les PC d'IHM, hein, sur lequel il y avait marqué, qui était dans la salle de pause, hein, sur lequel il y avait marqué « Vous trouverez dans le répertoire Toto les photos du dernier week-end ». Donc, il y a des accès physiques à l'informatique. Et contrairement à ce que disait Hervé, même les accès des fois au PLC sont pas protégés. Quand vous avez des équipements qui sont très répartis sur des grandes surfaces, qui sont des ports, qui sont des pipelines, qui sont des stockages, qui sont tout un tas de choses où il y a vraiment de la surface, eh bien, il y a des petits shelters en préfabriqué dans lesquels vous avez un PLC. Et la meilleure autoprotection qu'on trouve là-dessus, c'est qu'il y a un capteur sur l'ouverture de la porte et le PLC va remonter une alerte si la porte est ouverte. Et en général, c'est pour se protéger des dégradations des gens qui viennent piquer du matériel ou casser les trucs.
Oui, enfin, il y a quand même dans des usines sur lesquelles il y a une sécurité physique de l'usine. Maintenant, là où il y a beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être, c'est plutôt sur les IHM. Parce que les mecs qui sont derrière les IHM, ils s'embêtent hein, toute la nuit. Donc forcément, ils font ce qu'ils ne devraient pas sur les ordinateurs des IHM. D'où l'intérêt de bien cloisonner ces IHM du reste de l'infrastructure industrielle.
La plupart du temps, on peut mettre à disposition de ces personnes, par ailleurs, un deuxième PC qui leur permet de regarder des films s'ils ont envie, ou dans un certain nombre de salles de contrôle, j'ai fréquemment vu des téléviseurs. C'est moins choquant que de regarder des DivX sur un PC industriel.
Ouais. Moi, je suis d'accord.
Mais là, on revient, et c'est d'ailleurs un truc assez rigolo, parce qu'on le voit aussi dans le monde IT. C'est la reco typique des 40 mesures de l'ANSI qui est « Vos acteurs à privilège devraient faire leur travail à privilège depuis un PC dédié ». On vous répond « Non, vous comprenez, acheter un deuxième PC, ça coûte très cher. Les 1000 euros du PC, au mieux 2000 euros du PC, coûtent évidemment beaucoup moins cher que les dégâts s'il y a une compromission du poste. Mais au jour le jour, l'espace de bureau et l'achat de PC supplémentaire avec sa consommation électrique, etc., c'est jugé trop cher. Et dans le monde industriel, dans la plupart des cas, sauf système critique, ça l'est encore plus. Les coûts sont déterminants.
Et en termes de coûts, bon, c'est encore pire sur les firewalls ou les diodes, il est clair que on tire vers le bas le prix des automates. On n'aura jamais les budgets dans la plupart des environnements pour rajouter une diode qui peut coûter aussi cher, voire plus, que l'automate.
Sur une diode, je suis d'accord. En revanche, des matériels type un poste de travail ou un firewall, très honnêtement, quand on voit le prix que coûte un automate, c'est-à-dire son alimentation, sa CPU et ses cartes d'entrée-sortie, un PC à 2000 euros, c'est vraiment une broutille à côté du prix d'un automate. Et moi, je trouve que justement, il y a peut-être des marges de manœuvre dans les budgets de l'industrie. Simplement, il faut faire passer les bons messages. Mais l'argent, ils le dépensent. Après, peut-être que s'ils arrivaient à négocier un peu mieux avec leur intégrateur ou leur fournisseur d'automatisme, ils pourraient peut-être effectivement acheter un firewall.
C'est ce qu'ils doivent faire dès le départ, dans l'appel d'offres, puis dans le contrat, intégrer la sécurité auprès de leurs intégrateurs.
Mais est-ce que c'est un message qu'il faut passer ou est-ce qu'il faut carrément y aller à la loi J'adore cette comparaison avec les systèmes anti-incendie. Les systèmes anti-incendie,
en fait, là...
un boîtier chez moi maintenant, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas les obliger à faire la même chose, ces gens-là?
C'est des gens qui connaissent très bien la réglementation, puisque dans toutes les industries un peu sensibles, notamment tout ce qui peut manipuler des éléments chimiques, il y a déjà beaucoup de réglementations, et ils sont habitués à se conformer. C'est quelque chose qui est normal, c'est des budgets qui ne sont pas discutés, parce qu'ils sont obligatoires en quelque sorte. Donc moi je pense que c'est vraiment un vrai levier d'action, peut-être le seul même, parce que pour le coup je rencontrais encore... aujourd'hui même un constructeur d'automates qui me disait je comprends bien toutes vos recommandations mais nos clients ça ne les intéresse pas quand on leur propose de changer les mots de passe par défaut, ils nous disent non, laissez-nous les mots de passe par défaut. Donc je pense que si on n'a pas un peu une pression réglementaire, on n'y arrivera pas.
C'est possible d'acheter des diodes et des firewalls parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un paquet de trucs custom, propriétaires etc. Enfin, je veux dire, si tu veux mettre de la sécurité, tu peux ou...
Il y a des acteurs à l'international qui fournissent ça de manière très packagée. On ne va peut-être pas les citer, mais en acteurs français, je ne sais pas, mais en tout cas, en acteurs internationaux, oui. Il y a des diodes qui sont capables de faire passer un certain nombre de protocoles, que ce soit spécifiques industriels ou même de la base de données. Et de même pour les firewalls, il y en a qui font de l'inspection protocolaire pour à peu près tous les protocoles industriels les plus connus.
Non, mais déjà, la majorité, c'est en mode bus et n'importe quel firewall. Enfin, tous les firewalls classiques du monde IT sont capables de plus en plus d'inspecter mode bus et de faire ce que tu veux pour filtrer dedans.
Je mettrai quand même une petite note et je viens derrière la note de Nicolas. C'est que acheter ce type d'équipement sans acheter les services d'intégration avec, hein, c'est pas toujours évident. Et c'est pas forcément, c'est pas Dell quoi, c'est pas de la vente sur catalogue, je clique deux fois, je reçois ma diode. Il faut interagir avec des commerciaux qui généralement vendent des systèmes complets. Et de même chose pour une diode en fait, ce qui est important dans une diode, c'est pas la diode elle-même, hein, c'est les guichets qui sont à gauche à droite qui sont capables de gérer les protocoles dont on fait traverser, la diode. Et c'est pas, oui, ça s'achète. Il y a pas mal de fabricants. Il y a des produits qui sont très rodés parce que le milieu de défense utilise ce genre de choses depuis 20 ans, mais enfin plus de 20 ans même. Mais c'est pas forcément évident à acheter. Et puis il y a eu pas mal de petits fabricants qui ont été rachetés par des gros du monde des marchés défense, hein, qui ont tendance à vendre des gammes de produits plutôt que des produits individuels. Néanmoins, on en trouve quelques-uns. Il y a un Français qui s'est positionné depuis peu de temps là-dessus. Donc, il y a un marché. Mais ça reste des produits assez chers.
Et le coût reste toujours celui de l'individu, de l'humain, qui le configure. Et ça, c'est le vrai problème. C'est que le coût de la sécurité, ce n'est pas le coût du produit. Et c'est vrai, c'était vrai dans l'informatique, c'est encore plus vrai dans le monde industriel. C'est le coût de celui qui va s'en occuper. Aujourd'hui, ce qui manque dans beaucoup d'installations, ce sont des gens aux compétences appropriées pour gérer les équipements de sécurité industrielle et gérer cette sécurité informatique industrielle.
Mais dans l'informatique, ça a été résolu le problème. Les gens qui gèrent, ils sont à Bangalore, non ? Comme ça, ça coûte pas cher. Ça n'existe pas, ça, l'outsourcing dans le monde SCADA ?
Les grands fabricants d'automates essayent de le vendre. Et c'est pas, enfin, à ma connaissance, c'est pas encore répandu.
De la même manière qu'on commence à trouver du SCADA in the cloud.
C'est juste pour contrôler les vannes de la pluie, c'est ça?
Donc, sur la partie réseau, on a parlé de firewall, on a parlé de diode. Quid des sondes ?
Ouais. Moi, je pense que les sondes, c'est super bien. Pardon, excusez-moi. Non, mais tout simplement, dans le cas du SCADA, on a des installations, on n'a peut-être pas envie de toucher, et je pense que s'il faut repasser toutes les tests pour arriver à avoir un truc qui soit complètement revalidé, effectivement, comme disait Hervé, ça a commencé à coûter cher. Et peut-être se mettre en mode bloquant sur un truc industriel super touchy, et ça peut être un peu compliqué. Je vois des têtes qui se couent, mais... Voilà, donc être en mode passif, ça peut être intéressant, quoi.
C'est clair que se mettre en IPS ou en filtrage avec un boîtier étranger qu'on vient mettre posé en coupure, en dédiant sa configuration à je ne sais qui, avec des implémentations de dissecteurs plus ou moins validées, il n'y a pas grand monde qui prend le risque. Par contre, le deuxième aspect dont on n'a pas parlé, puis là on parle des sondes, donc je vois très bien où tu veux en venir, c'est que sur les réseaux industriels, il n'y aura jamais d'attaque parce qu'on ne les verra pas, enfin, sauf quand ça va casser. Donc il n'y a aucun log, il n'y a rien. Il n'y a pas de log dans les équipements industriels, il n'y a pas d'équipement qui log les protocoles, puisqu'ils sont plus ou moins tous propriétaires, à part effectivement Modbus, ces choses comme ça. Et donc la première chose peut-être à faire, hormis la cartographie, les assets et le patrimoine, c'est de générer des traces, quoi, voir ce qui s'est passé, ou tenter de comprendre ce qui se passe.
Il est clair qu'il y a des problèmes d'homologation dès qu'on met des équipements actifs. Donc, installer dans quelque chose d'existant des firewalls ou des diodes, outre les problèmes de prix et de gestion, ça pose un énorme problème d'homologation de l'infrastructure industrielle. Et là, des choses totalement passives qui, sur le papier, ne peuvent pas affecter le fonctionnement du système, simplement pour générer des alertes de la journalisation, c'est clairement parfois plus approprié.
Il y a des homologations sur les systèmes industriels ?
Oui.
Lesquels, par exemple ? Enfin, si demain, je décide de faire ma boulangerie avec et de construire des brioches...
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a plein de systèmes industriels sur lesquels il y a une homologation qui est propre au métier et au fonctionnement de l'industrie en question.
Oui, donc tu as des trucs dans le portuaire, tu as des trucs dans le nucléaire, etc. Mais...
L'électricité.
Oui, l'électricité, enfin, quelques domaines... réglementé, mais finalement, si demain tu décides de fabriquer des brioches, à part les problèmes de sécurité alimentaire, sinon il n'y a pas d'homologation spécifique industrielle, parce que sinon ça réglerait pas.
Non, mais il y en a aussi dans les systèmes de sécurité incendie que tu vas trouver dans n'importe quelle usine.
Oui, d'accord, mais je veux dire, si jamais il y a une homologation obligatoire sur les systèmes, il suffit.
Je suis d'accord, il n'y a pas d'homologation partout.
Et c'est réglé, quoi.
Mais quand il y a une homologation, tu ne rajoutes pas un équipement supplémentaire aussi facilement que ce que tu pouvais le faire dans une informatique bureautique.
Sur les aspects techniques encore, donc on a parlé de réseau. Si on parle d'anti-malware, comment est-ce qu'on peut gérer la problématique anti-malware dans des environnements où justement les machines ne sont pas censées aller avoir une connexion Internet et pouvoir se connecter à l'extérieur ?
Et donc ne sont pas mises à jour, n'ont pas d'application des correctifs de sécurité et pas d'antivirus à jour.
Voilà, comment est-ce qu'on gère cette problématique ?
Alors, les fabricants...
C'est de la liste blanche.
Déjà, on peut faire la liste blanche sur les applications. Les fabricants aussi poussent aujourd'hui beaucoup de mises à jour des postes. Alors, il y a une autre contrainte, hein, c'est que les équipementiers industriels, qui sont les fabricants d'automates et des logiciels qui vont aller derrière, en général, veulent avoir le contrôle sur les versions des patchs et de Windows que vous avez sous lesquels ça tourne. Sinon, vous n'aurez pas votre maintenance. Et donc, dans pas mal de cas, de toute façon, vous êtes bloqué sur une version jusqu'à ce qu'ils vous donnent le feu vert. Il y en a un certain nombre aujourd'hui qui proposent d'appuyer sur WSUS pour distribuer tout ce qui est correctif de leurs applications, de pousser avec les correctifs antivirus, enfin les mises à jour d'empreintes de base d'antivirus, et en disant bah, vous installez un WSUS sur votre site industriel et vous allez le synchroniser d'une façon qui vous concerne et déployer. Alors ça pourrait pas mal marcher en théorie. En pratique, ça veut dire qu'il faut quand même avoir toute la gamme qui vous est imposée par un fabricant. Et en plus, ça tient rarement compte du fait que vous avez rarement une seule génération qui est déployée. Et donc, l'ancienne génération et la nouvelle génération ne sont pas toujours bien gérables de la même façon. J'ai vu plusieurs cas où on a des installations où la nouvelle version des équipements, etc., permettent de faire une sécurisation raisonnable, enfin une meilleure sécurisation, mais où pour des raisons de compatibilité avec certains équipements qui sont upgradés 5 ans plus tard ou beaucoup plus tard ou jamais, qui vont être décommissionnés, eh bien on est passé sur un mode non, on ne va pas faire les updates parce que de toute façon il y en a la moitié qu'on ne pourra pas faire.
Par ailleurs, il y a un certain nombre de procédés industriels pour lesquels, lorsqu'on veut installer les mises à jour Windows, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un arrêt de maintenance, c'est-à-dire que l'usine arrête de produire, et du coup, c'est un coût qui est non négligeable, et même si le constructeur ou le fournisseur d'automates vous fournit rapidement les mises à jour Windows, les exploitants de sites vont les installer peut-être tous les 6 mois ou tous les ans.
Et vous parliez de whitelisting, est-ce que vous pouvez développer de quoi il s'agit ?
Oui, tout à fait. Le principe est assez simple, hein, c'est de se dire que le fonctionnement de l'antivirus, c'est de détecter des signatures de fichiers qui sont connues comme étant malveillants. Le fonctionnement par liste blanche ou par whitelisting est inverse. Il consiste à dire je n'autorise l'exécution sur mon serveur, sur mon poste de travail, que des binaires qui correspondent à un fonctionnement normal de mon système. Donc ça nécessite des phases de configuration assez lourdes, notamment parce que la plupart des applicatifs nécessitent un certain nombre de dépendances qu'il faut identifier. Mais une fois que c'est en place, ça fonctionne bien jusqu'au jour où on installe des mises à jour. Et où là, il faut requalifier l'ensemble des éléments qui sont dans la liste blanche.
D'accord.
Juste bêtement, au niveau des versions de Windows, il y a quand même... Enfin, je pense à Windows 8, par exemple, comment ils vont faire? Parce que là, maintenant, il n'y a plus de notion d'update... ton poste il se met à jour en continu, il est connecté en permanence, et même je sais pas s'il y a encore des installations qui tournent sur XP par exemple, aujourd'hui tu ne trouves plus les drivers pour réinstaller XP sur des nouvelles machines.
Tu as du Windows NT Service Pack 4 par exemple dans pas mal de domaines.
Ouais, mais si la carte mère crame, tu fais comment? Parce que si tu rachètes un processeur moderne, le NT4,
ben, ça va pas dessus. Ils ont 10 spares, ils ont des armoires entières de spares. Et c'est prévu, c'est-à-dire on dit bon ben voilà mon protocole, bon là on peut citer, ben, c'est du S5, donc les experts sauront parler de la. Et ben il y a des gens qui ont 500 automates S5, donc c'est plus fabriqué, c'est plus maintenu, il y a plus rien là-dessus. Et ben ils en ont 400 en stock qui démarrent tous les 3 mois pour les faire chauffer et pas qu'ils prennent l'humidité puis qu'ils rééteignent au cas où un jour faudrait changer. Non, c'est très particulier, les mises à jour sur les... La gestion des mises à jour, la plupart des vendeurs de solutions de supervision interdisent les mises à jour, Arnaud en parlait tout à l'heure, ça c'est flagrant. Ça finit par tomber en marche un jour parce qu'ils ont fini par réussir à configurer tout le truc, et surtout, il ne faut plus toucher, quoi. C'est un vrai problème.
L'autre problème, je pense qu'on peut citer hein, sur le patch management, c'est qu'en fait... Je pense qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur l'application régulière des correctifs de sécurité. La plupart des correctifs de sécurité qui sont publiés, si on regarde les bulletins du CERT ICS, qui est un CERT dédié au SI industriel aux États-Unis, c'est quand même des vulnérabilités qui sont finalement pas très importantes. C'est un petit déni de service, un XSS, un CSRF sur l'interface web, alors que les vraies vulnérabilités de type « je reprogramme mon automate sans authentification », elles sont pour l'instant pas traitées. Du coup, c'est une position assez délicate de dire à un exploitant « installez cette mise à jour, elle va corriger un XSS ». Par contre, l'attaquant pourra toujours voler votre programme automate ou le modifier à distance sans authentification.
C'est pour ça que ce qu'il faut protéger, c'est l'automate. Voilà, c'est l'automate. J'ai envie de dire, le poste de supervision, au pire, il tombe, on est en aveugle, mais le système continue à tourner. On répare, on se rebranche, on vient avec un port série. Donc la priorité, c'est l'automate.
Il y a pas mal de systèmes où, si on est en aveugle plus d'un certain temps, on doit shutdowner.
Oui, mais au moins, on a le temps de shutdowner et de prendre la décision.
Ah oui, mais shutdowner, ça coûte cher.
Oui, d'accord. Le système continue à fonctionner. Il n'y a aucun automate. On parlait d'ailleurs des niveaux, donc là on parle très clairement de l'eau, le water plant ou traitement. Où effectivement on vient donner des niveaux à la main. Mais quelle que soit la consigne qu'on va donner en manuel, le programme qui tourne à l'intérieur saura gérer les niveaux eau atteints, les pressions atteintes, les vannes ouvertes ou les vannes fermées. Donc c'est pas un souci. Par contre, effectivement, Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de vulnérabilités sortent et beaucoup de gens se focalisent sur les mises à jour, le Windows, le machin, l'HMI, le WinCC, tout ça. Mais je trouve qu'on n'entend pas assez parler de qu'est-ce qu'on fait pour protéger l'automate, ses protocoles, ses failles inhérentes, c'est tout ce qu'on peut faire sur un automate dès qu'on est connecté sur le réseau de l'automate. Ça, c'est vraiment primordial.
Concrètement, aujourd'hui, la principale protection qu'on sait faire des automates, c'est empêcher des tiers d'accéder au réseau de l'automate. Parce qu'on ne sait pas sécuriser l'automate une fois qu'il est en place. Les protocoles, on ne peut pas les changer. Les configurations, on reflashé un nouveau firmware dans un automate, bah, il faut arrêter le process. Ou alors, il faut avoir un deuxième automate qui prenne la main, mais c'est rarement prévu. Et en plus, même tester la vulnérabilité de l'automate, ce n'est pas évident, parce que c'est rare de tomber sur une installation qui a assez de spares pour qu'on puisse tester dessus une configuration comparable.
C'est pour ça qu'il faut faire des environnements représentatifs en bac à sable pour tester les attaques dessus. Non, mais oui, c'est... Enfin, pour moi... Un des axes vraiment qu'il faut creuser, parce qu'on peut pas impliquer les fournisseurs directement, enfin il y a des essais qui sont faits, mais c'est la protection de l'automate et le filtrage, enfin segmentation du réseau et filtrage protocolaire fin, et tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Il faut que quand quelqu'un vienne reprogrammer l'automate, ça fasse partie d'une consigne particulière, et puis on appuie sur un bouton, un relais ou quelque chose pour l'autoriser, mais on sait le fond, on dit ok. Et pas juste, bah, j'arrive, je me branche, j'y vais, je balance, et puis ni vu ni connu, personne n'a rien vu. C'est pas possible.
De toute façon, je pense aussi que sur certaines installations, bah, il faut revenir au bon vieux principe de base. Hein. Soit c'est interconnecté et c'est pas programmable,
voilà.
Soit c'est programmable et c'est et pas
c'est interconnecté. Pas
et la personne doit passer une porte physique pour aller d'un poste à un autre, où il y a quelqu'un qui inspecte longuement et de manière très approfondie la clé à mémoire USB qu'il transporte avec lui. Il n'y a pas d'autre solution. À partir de certains niveaux, il faut plus prendre de risques. Il faut revenir à des vieux transistors et des choses pas programmables quand on veut rester interconnecté. Ou sinon, eh bien, il faut pas s'interconnecter.
Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est ce qui est promu, c'est l'usine intégrée. C'est faire tomber les murs entre le système industriel et le système d'entreprise. Et c'est que le CEO puisse voir en bourse l'impact de la pièce qui est sortie sur la chaîne de montage.
Donc, absolument.
C'est votre ERP en haut qui parle en direct au système industriel et vous avez combien est sorti et combien est sur la route, combien est la valeur de votre système, de ce que vous avez produit et combien sont vos stocks roulants et ainsi de suite. Et tout ça étant piloté depuis le SI d'entreprise.
Et donc, avec un ERP qui utilise un protocole
obsolète.
Qui n'est même pas filtrable. Et donc avec son agent qui tourne carrément sur tous les systèmes de supervision des automates.
Non, mais, simple morale, hein.
Mais c'est ça la réalité, mais on va complètement dans le mur. Chaque jour doit être un émerveillement permanent, tellement la vraie catastrophe ne nous est toujours pas arrivée.
Le SCADA est un échec.
Le SCADA marche très bien, mais la sécurité du SCADA n'est pas un sujet.
Nicolas, est-ce que le succès est un échec?
En tout cas, l'échec est un grand succès.
C'est la conclusion.
Non, peut-être pas. Est-ce que vous voyez d'autres points qui permettraient d'améliorer la sécurité de ces systèmes?
Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est que bon, pour améliorer la sécurité des systèmes industriels, il faut penser à nommer des responsables du sujet et donc des gens qui s'en occupent. Et c'est sans doute un des tout premiers investissements à réaliser.
Il y a des volontaires pour faire ça?
Il y a des volontaires pour le faire. Il y a beaucoup moins d'industriels pour dédier une personne à ce type de poste. Il y a même des automaticiens qui se passionnent par le sujet et qui sont prêts à prendre la sécurité du réseau informatique industriel à bras-le-corps.
Il y a des automaticiens qui viennent aux formations sur la sécurité des SI industriels. Donc effectivement, je pense qu'il y en a que ça intéresse. Après, le problème, c'est que en fonction de la répartition géographique, en fonction du nombre de personnes qu'il y a sur les sites, c'est pas forcément évident de créer une filière parce que ça peut être beaucoup plus décentralisé que sur de l'IT classique.
Moi, je pense qu'il faut continuer à faire un rôle éducatif comme Guillaume, ce qu'il fait avec ses démos SCADA, où il montre que tu casses tout sans faire exprès, c'est quand même assez parlant.
Bah oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de, du refus d'investir, par exemple, dans un PC à 1000 euros. Ça, c'est clairement un manque de prise de conscience de la problématique.
C'est un problème de vision globale et d'être capable d'apprécier le risque globalement. Il ne faut pas oublier qu'énormément d'industries travaillent au centime et font des marges de quelques centimes sur des opérations de fabrication. Et donc, c'est normal que ces gens-là aient des difficultés à créer un poste dédié sur la sécurité des systèmes industriels, aient des difficultés à acheter des PC supplémentaires, et des difficultés à investir dans quelques firewalls ou diodes pour segmenter les réseaux.
Avant de faire des choses très compliquées, il y a quand même beaucoup d'hygiène de base à faire sur les réseaux informatiques qui entourent tout le monde industriel. Il y a énormément de choses basiques, d'inventorier, de segmenter, de séparer et de sécuriser tous les postes et les gens qui accèdent dessus, qui sont des choses qu'on commence à faire systématiquement dans le monde de l'informatique d'entreprise. Et c'est quand même très très tardif et aujourd'hui on est encore très vulnérable, mais qui ne sont pas commencés dans le monde industriel. Et donc il y a probablement beaucoup de mesures d'hygiène de base qui permettent de gagner. Enfin, aujourd'hui, la plupart des environnements que j'ai eu l'occasion d'observer sont vulnérables à des infections virales non ciblées et triviales. Et c'est un niveau de risque qui est globalement facile à descendre, ne serait-ce qu'en appliquant des règles d'accès. Mais si on descend d'un pouillème dans la plupart des cas la rentabilité, ou si on augmente les temps d'action, etc., c'est évidemment pas supportable. Et donc il faut être extrêmement prudent dans la mise en place de mesures. On a travaillé avec un industriel qui fabriquait des équipements sur qui l'augmentation de 0,25 secondes sur un poste de la chaîne se traduisait par 10 pièces de moins à la fin de la journée, et c'était pas acceptable. Et donc, il a fallu trouver des mesures de chiffrement qui n'impactent pas ce quart de seconde. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la priorité d'abord, parce qu'en plus, évidemment, aujourd'hui, on parle industriel, on parle OIV, et en plus, quand on parle OIV, on pense aux gros OIV. On va penser, évidemment, à RDF, au transport du gaz, à ce qui vole, à ce qui explose, etc. Mais sur les 200 et quelques OIV, il y a un paquet de PME qui n'ont pas forcément des budgets suffisants aussi pour obtenir un niveau de sécurité à la hauteur de ce qu'ils opèrent. Et quand on sort du monde des OIV, la plupart des industriels n'ont pas aujourd'hui un budget et pour la sécurité, et pour le justifier, c'est pas forcément évident. Et on a nous, qui venons du monde de l'informatique, souvent un problème de communication, parce que là aussi, nous, on n'a pas forcément bien la maîtrise du vocabulaire, la compréhension des contraintes du monde industriel, et c'est quelque chose qui n'est pas trivial à acquérir non plus.
En conclusion ?
Non, mais en conclusion, il est très important de se former à la sécurité des systèmes industriels.
Tu vois, je te l'avais dit. Non, mais que ce soit pour prototyper, que ce soit pour faire du pentest, ou que ce soit pour tester ses patchs avant la mise en prod, il faut un environnement représentatif le plus fidèle. On peut pas faire ça sur le système en prod. Il faut s'entraîner, et puis voilà, c'est tout.
Eric, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je dirais que quand on fait des barrages, il faut prévoir la sécurité en amont pour protéger l'aval.
Ok, bon bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!
Bonne soirée!
Au revoir!
Au revoir!
Au revoir!
Au revoir! Au revoir.